La voix du Bodhisattva de Shantideva. Voici des stances extraites de la voix du Bodhisattva. L'excellence de la bodhicitta. Devant ceux qui demeurent dans la félicité, le dharma dont ils sont maîtres et tous leurs héritiers, devant ceux qui méritent d'être honorés, je me prosterne. Selon la tradition, je vais maintenant exposer brièvement comment pratiquer la discipline du Bodhisattva. Tout ce que j'ai à dire a déjà été dit. Je n'ai aucune érudition et suis maladroit avec les mots. Je n'ai pas écrit cet ouvrage en pensant aider les autres, mais dans le seul but de nourrir ma compréhension. Ma foi se renforcera donc pour un certain temps, pour que je puisse m'accoutumer à cette voix vertueuse. Ceux qui par hasard entendront mes paroles pourront aussi en profiter, eux qui ont autant de chance que moi. Il est si difficile de trouver ces libertés et ces richesses qui permettent de donner un sens à cette naissance humaine. Si je ne parviens pas maintenant à la mettre à profit, comment une telle chance pourrait-elle se représenter ? Comme la lueur d'un éclair qui déchire la nuit et dans son éclat aveuglant révèle tout ce que voilait de sombres nuages, il arrive exceptionnellement que par le pouvoir du Bouddha, des pensées vertueuses, brèves et transitoires, s'élèvent dans le monde. Voici donc l'extrême fragilité de la bonté. Hormis la parfaite bodhicitta, qui d'autre serait capable de résister à la force colossale et écrasante du mal. Les Bouddhas tout-puissants ont réfléchi durant des kalpas et ont vu que cette vision, et elle seule, sauvera les multitudes d'êtres infinis et leur permettra d'atteindre aisément la joie suprême. Ceux qui souhaitent surmonter les malheurs qui les touchent et dissiper la douleur et la souffrance des êtres, ceux qui souhaitent atteindre le bonheur sublime, ne devrait jamais tourner le dos à la bodhicitta. Si la bodhicitta vient à naître en celui qui souffre dans les prisons du samsara, à cet instant même, il devient l'héritier du Bouddha et est honoré des dieux et des hommes. Car à l'image de la suprême substance des alchimistes, elle prend la forme impure de la chair humaine et de là se transforme en corps précieux d'un Bouddha. Telle est la bodhicitta que nous devrions fermement tenir. Si nos guides suprêmes à la sagesse limitée en ont reconnu la valeur inestimable, nous, qui cherchons à sortir de notre errance nomade, devrions garder fermement cette précieuse bodhicitta. Toutes les autres vertus produisent des fruits, mais s'épuisent, tels les plantains. Seul l'arbre merveilleux de la bodhicitta portera ses fruits, sans jamais cesser de croître. Comme si, protégés par un héros, ils échappèrent de grands dangers, même les êtres chargés de la pire cruauté seront instantanément libérés par la bodhicitta. Quel est celui qui ne placerait pas sa foi en elle? Comme par les feux de la fin des temps, les fautes les plus lourdes sont entièrement consumées par la bodhicitta. C'est pourquoi ses bénéfices sont sans limite, comme l'expliqua à Sudana, le sage et bienveillant seigneur. Il est dit en bref que la bodhicitta, l'esprit d'éveil, présente deux aspects. Le premier est l'aspiration, la bodhicitta du souhait. Le second est la bodhicitta active, l'engagement dans l'action. De même qu'il y a une différence entre vouloir partir et se mettre en route, de même le sage et l'érudit comprendront cette différence méthodique et progressive. La bodhicitta du souhait porte des fruits somptueux que recueillent ceux qui errent dans le samsara. Mais son courant de mérite n'est pas éternel et ne s'élèvera que de la seule bodhicitta active. Car quand l'esprit étreint la bodhicitta avec l'intention irréversible de libérer les multitudes d'êtres infinis, à cet instant, dès ce moment, s'élève la force des mérites vertueux aussi vaste que l'espace, en un magnifique courant ininterrompu, même dans le sommeil et les moments d'inattention. Ainsi parla le Tathagata dans le sutra requis par Subahu, enseignant par des raisonnements logiques ceux qui aspirent aux voies inférieures. Si le simple souhait de soulager par bonté et générosité les maux de tête de quelques êtres apporte des mérites infinis, que dire alors du souhait d'éliminer les innombrables souffrances de tous les êtres sans exception en leur apportant des vertus illimitées? Nos pères ou nos mères ont-ils jamais eu pareil souhait? Les dieux, les rishis et même Brahma nourrissent-ils une telle bienveillance? Aucun d'eux n'a jamais, même en rêve, imaginé pareil désir pour lui-même. Comment le pourrait-il pour le bien des autres? Si les êtres ne souhaitent pas même leur véritable bonheur, comment pourraient-ils concevoir le bonheur d'autrui? Cet état d'esprit si précieux et si rare est une merveille inconcevable. L'intention d'éliminer la souffrance, cette précieuse attitude, ce joyau de l'esprit, source de joie pour tous les êtres qui errent dans le monde, comment pourrait-on la mesurer et la qualifier? Car si la simple pensée d'aider les autres est bien plus précieuse que d'honorer les Bouddhas, que dire des actes concrets qui apportent bonheur et bienfait à tous les êtres? Les êtres aspirent à se libérer de la misère, mais ne font que suivre et poursuivre la misère. Ils aspirent à la joie et par leur ignorance la détruisent, comme si c'était leur pire ennemi. Mais celui qui, empli de félicité tous les êtres dénués de joie, qui abroge la douleur et la souffrance des êtres croulant sous la misère, qui élimine l'obscurité de leur ignorance, quelle vertu pourrait égaler la sienne? Quel ami pourrait être comparé à lui? Quel mérite pourrait être similaire à celui-ci? Si l'on fait l'éloge de ceux qui font le bien en remerciement de services rendus, que dire alors des bodhisattvas qui sans compter font le bien de tous? Si on appelle vertueux et qu'on loue celui qui, avec mépris et condescendance, donne juste une fois un repas à quelques êtres, les sustentant pour une demi-journée, que dire alors de celui qui ne cesse d'offrir à des multitudes sans limite la joie sans égale de la félicité des Bouddhas et l'ultime accomplissement de leurs souhaits? Celui dont l'esprit nourri de mauvaises pensées contre ses bienfaiteurs, héritier du Bouddha, demeurera en enfer, a dit le Tout-Puissant, autant de kalpas que la somme de leur malveillance. En revanche, des pensées bonnes et vertueuses produiront des fruits en plus grande quantité, car même dans l'adversité, les bodhisattvas ne font jamais le mal et le courant de leur bonté ne cesse de grandir. Devant ceux en qui est né ce précieux esprit sacré, je me prosterne, dans cette source de joie qui conduit ses ennemis même à la parfaite félicité, je prends refuge. Ce texte est commenté lors des week-ends à Saint-Martin-Lestras, l'entrée dans le cœur. Bonne écoute.